Bien, ben si vous voulez prendre place, nous allons continuer cette matinée. Donc je vais, avant de donner la parole à Pascal Lamy, je vais commencer cette deuxième partie de la matinée en introduisant une réflexion sur le problème de la légitimité des institutions internationales. L'idée générale de ma courte présentation sera de suggérer que les définitions traditionnelles et classiques de la légitimité s'appliquent difficilement aux institutions internationales, mais que nous assistons actuellement à une mutation de la légitimité dans les institutions politiques nationales, qui s'opère dans des termes qui rend plus facile les nouvelles conditions de définition de la légitimité aux institutions internationales. Un premier point de définition. Comment définir la légitimité? La légitimité, me semble-t-il, elle se définit d'abord par ses effets. Et on peut, pour la qualifier, utiliser les expressions qui ont été celles à la fois de Arrow pour parler de la confiance et de Ferrero. Arrow parlait des institutions invisibles et Ferrero parlait des génies invisibles de la cité. Je crois que l'on peut dire que la légitimité est à la fois un génie invisible de la cité et une institution invisible. Elle se définit par ses effets, qui sont de quatre ordres. La légitimité est d'abord un économiseur de justification. La légitimité reconnue à une institution, la légitimité reconnue à un pouvoir, le dispense de justifier en permanence ses décisions et ses actions. Le deuxième élément central de la légitimité, c'est que la légitimité est un économiseur de coercition. Cette définition était principalement appréhendée par quelqu'un comme Ferrero, qui disait « le propre de la légitimité, c'est d'introduire au mystère de l'obéissance dans les sociétés humaines ». C'est donc se faire obéir sans avoir besoin ni de justification ni de coercition. Troisième élément caractéristique de la légitimité, c'est qu'elle est un facteur de renforcement et de consolidation d'une règle d'établissement. Si la règle d'établissement est par exemple l'établissement par le vote, le propre de la légitimité, c'est de consolider les effets de cette règle d'établissement. Historiquement, on doit signaler d'ailleurs que le terme de légitimité a été employé pour la première fois dans la langue française vers 1816 par Talleyrand, qui, lui, a défini la légitimité comme un substitut à une règle d'établissement. La légitimité a été définie par lui en disant « Je ne suis pas le serviteur du régime, je suis le serviteur de ce qui devrait le fonder, à savoir le droit. » Donc, dans ce cas-là, on peut dire que la légitimité renvoie à l'esprit de la règle et non pas aux modalités matérielles de la règle. Quatrièmement, enfin, le propre de la légitimité est d'être producteur d'adhésion. Donc la légitimité a une dimension active et non pas simplement une dimension passive. Muni de cette définition des effets de la légitimité, nous pouvons essayer de considérer ce qui a caractérisé les formes classiques de la légitimité démocratique. La légitimité démocratique s'est d'abord définie par un critère essentiel, c'est celui d'une origine liée à la généralité sociale. On peut dire que la légitimité renvoie à l'idée d'une institution de la généralité. La légitimité renvoie au pouvoir social de la généralité. Ce pouvoir social de la généralité est opéré par un certain nombre de techniques, dont la principale est une technique électorale. Mais il faut rappeler que dans l'histoire du vote et dans l'histoire de la légitimité par l'élection, le vote ne renvoyait pas à un principe de majorité, mais le vote renvoyait à la construction d'une unanimité. Et non seulement le vote renvoyait à la construction d'une unanimité, mais le vote renvoyait aussi à l'idée que si l'établissement public résultait véritablement de la volonté générale, s'il était issu de la généralité sociale, alors le gouvernement qui en était issu était nécessairement et structurellement conforme dans son action à la volonté générale. C'est le fameux adage français que la loi exprime la volonté générale, mais c'est également la croyance extrêmement importante que si le suffrage universel était véritablement pratiqué, alors l'intérêt général serait poursuivi. Selon la définition fameuse en Angleterre du mouvement chartiste, si nous avions le suffrage universel, nous aurions tous du pain et de la bière à satiété. Donc c'est l'idée qu'il n'y a pas simplement une procédure derrière le suffrage universel, mais qu'il y a production également de l'intérêt général lui-même. L'histoire de la démocratie au XIXe siècle était inséparable en quelque sorte du constat désenchanté que cette règle d'établissement ne fonctionnait pas selon les critères qui avaient été initialement envisagés. Et que la majorité signifiait très largement qu'il n'y avait évidemment qu'une absence en quelque sorte d'unanimité et que la majorité était la partialité. D'où dans la plupart des pays démocratiques, à partir des années 1860, d'une réflexion sur les conditions structurelles dans lesquelles cette légitimité d'établissement pourrait être en quelque sorte enrichie et complétée par d'autres principes. Le principe était celui de déterminer les conditions de mise en œuvre de ce que j'appellerais une légitimité d'identification. Cette recherche d'une légitimité d'identification s'est menée de pair dans l'ordre intellectuel avec, chez les économistes, les premières théories qui proviennent de Wicksell pour trouver les conditions dans lesquelles une unanimité pourrait être retrouvée. Mais si l'unanimité ne pouvait pas être retrouvée, Wicksell a développé ses travaux essentiellement en considérant justement les défections du système électoral traditionnel. Parallèlement à cet axe de réflexion théorique, se sont développées dans plusieurs pays une recherche des conditions dans lesquelles la généralité sociale pourrait être produite par d'autres moyens. Et il y a eu deux théories qui ont été aussi, je dirais, deux tentatives de mise en œuvre pratique de cette définition en France et aux États-Unis. Aux États-Unis, cela a été la théorie de l'administration rationnelle. Apparaît dans les années 1880 l'idée que pour faire face au déficit de légitimité produit par la sphère politique toujours tendue par les problèmes de compétition partisane, il fallait l'équilibrer par la mise en place d'une sphère qui était celle du pouvoir administratif. Le premier grand théoricien de ce pouvoir administratif a été celui qui allait devenir un président des États-Unis, Wilson, mais c'est ensuite un professeur de Columbia, Goodnow, qui, avec un certain nombre de ses collègues, a développé cette vision qui a donné le champ intellectuel au sein duquel pourra naître, quelques années plus tard, toutes les théories de l'efficacité de l'administration rationnelle, dont Taylor ne sera qu'un élément parmi d'autres. En France, ce sont à peu près à la même époque, et les auteurs se connaissaient et se lisaient, ce sont les théories du service public. Les théories du service public visent à définir non pas la démocratie comme un pouvoir subjectif, mais la démocratie comme un pouvoir objectif. La démocratie comme le pouvoir objectif de la poursuite de l'intérêt général et le moyen d'établir ce pouvoir objectif est une identification entre un groupe social et une fonction collective. Donc toutes les théories du service public critiquent fortement les définitions subjectives de la démocratie. Évidemment, le nom de Dugin, il n'est pas le seul, s'impose à ce moment-là, pour lui substituer une définition objective de la démocratie, cette définition objective de la démocratie étant elle-même fondée sur le principe de l'adéquation entre des groupes sociaux et puis des objectifs collectifs. Cette assimilation qui aboutira à toute la réflexion que l'on connaît vers le début du siècle sur le statut des fonctionnaires consiste à dire qu'il y a la possibilité d'organiser une puissance publique qui soit structurellement au service de l'intérêt général et qui soit l'incarnation de cet intérêt général. Et on peut dire que les démocraties ont fonctionné en équilibrant, d'une certaine façon, ces deux formes de légitimité. Une légitimité d'établissement fondée sur le suffrage et le principe majoritaire, et une légitimité d'identification, avec ses différentes déclinaisons institutionnelles, définissant une approche plus substantielle et non pas procédurale de la légitimité. Il y avait de cette façon partage, pourrait-on dire, entre deux définitions de la démocratie. Une définition de la démocratie comme un principe de décision et une définition de la démocratie comme un principe de justification. Il n'y a pas simplement l'opposition entre établissement et identification, mais il y a l'opposition implicite entre un principe de majorité et un principe d'unanimité. La démocratie étant considérée comme le régime qui lie structurellement un principe de décision majoritaire et un principe de justification par l'unanimité. Ces deux définitions qui, dans le cadre français, pourraient être commentées en disant qu'il y a eu, d'un côté, l'établissement des principes démocratiques et, de l'autre côté, l'établissement des principes républicains, ont été, surtout dans le cas français, en quelque sorte unifiés par toute une théorie de ce que les économistes ont appelé les jacobins bienveillants ou de ce que les hauts fonctionnaires français appelaient les jacobins d'excellence. Et cet équilibre qui était fondamental dans toutes les démocraties s'est effrité dans les années 1980. Cet effritement a bien des causes. Si l'on considère la question des institutions de la généralité, une des principales causes de cet effritement est bien sûr d'abord d'ordre sociologique. C'est le fait que l'on ne croit plus aujourd'hui qu'il y ait un statut social qui puisse définir, sur le mode, disons, presque d'une noblesse d'État à l'ancienne, un service de l'intérêt général. Que cette définition, qui était celle de Dugin, par exemple, reposait sur le présupposé d'une distribution des compétences dans la société, dans lequel l'écart entre les compétents, disons, et puis les exécutants était clairement dessiné. Était clairement dessiné, car ce monde des institutions de la généralité reposait sur un principe concurrent de l'élection, le concours ou l'examen. L'élection est un moyen de sélection et le concours est un autre moyen de sélection. Et on a longuement comparé, dans les régimes démocratiques du XIXe siècle, ces deux, les vertus comparées de ces deux modes de sélection. Mais le concours a été considéré comme en quelque sorte un perfectionnement et même une sorte d'achèvement de l'idée d'élection. L'idée d'élection n'étant pas simplement liée originellement au fait de faire un choix, mais de faire un choix éclairé dont la spécificité aboutisse à sélectionner les meilleurs, les plus compétents et les plus vertueux. Si on regarde les textes de la Révolution française, c'est même ce qui faisait entraîner comme caractéristique que l'on ne pouvait pas être candidat à une élection. Parce qu'être candidat à une élection présupposait que l'on se considérait comme supérieur aux autres et que l'on s'attribuait à soi-même des qualités exceptionnelles. Et donc, c'était une atteinte jugée fondamentale à l'égalité citoyenne. Et l'élection était le processus souhaité naturel par lequel les supériorités, qui n'étaient pas des supériorités d'ordre social, mais des supériorités de l'ordre de la vertu et de la connaissance, puissent être naturellement déterminées. Pour comprendre la production de ces mécanismes, il faut savoir que pendant la Révolution française, on votait dans des assemblées d'un millier de personnes, c'était les assemblées primaires, et que le vote se déroulait donc sans candidature, et donc on faisait autant de tours de scrutin qu'il le fallait pour arriver à dégager une personne, en présupposant que ce long processus allait conduire à déterminer justement ces éléments de compétence et de vertu. Pour préciser matériellement ces choses-là, il faut souligner qu'en 1790-91, dans les, non pas les assemblées primaires, mais les assemblées de second degré à Paris, on passait jusqu'à 180 jours de vote par an. C'est-à-dire que le vote était une activité à mi-temps, à cause de ses caractéristiques techniques, de l'impossibilité d'être candidat, mais auxquelles on attachait beaucoup d'importance, parce que justement, c'était une théorie de l'élection comme une pure sélection des talents et des vertus, et non pas comme un choix entre des clans, des groupes, ou des idéologies, bien évidemment. Toutes considérations qui, évidemment, à l'inverse, ont été liées à celle de la naissance des partis politiques. Donc, il y a d'abord eu ce qu'on pourrait appeler une sorte d'effacement, d'effondrement sociologique de cette considération qui était centrale dans les institutions de la généralité. Et bien sûr, il y a eu des considérations d'ordre beaucoup plus économique, c'est-à-dire que les théories modernes de l'information, les théories du contrat, les théories des incitations, je pense là, bien sûr, aux théories qui ont été développées par quelqu'un comme Jean-Jacques Lafont, ont montré que derrière la prétention à l'intérêt général qu'il y avait derrière un certain nombre de ces institutions, il y avait au contraire bien des biais qui pouvaient se former. Ensuite, on peut dire, mais en troisième lieu simplement, que des facteurs de type proprement idéologique, et notamment à partir des années 1980 aux États-Unis ou en Angleterre, ont joué un rôle extrêmement important pour contribuer à miner les fondements de cette légitimité d'identification, qui ont eu aux États-Unis un effet considérable immédiat, c'est le retour de formes de spoil system. En 1970, il n'y avait plus que 430 fonctionnaires qui étaient à la discrétion de la nomination du président des États-Unis. 20 ans après, ils étaient 2500. Et ce retour au spoil system a fait l'objet de très nombreux débats dans les revues administratives américaines et politiques également, et était un fait absolument fondamental de la période, montrant le déclin de ces institutions fondées sur une légitimité d'identification. À la place de ces formes anciennes de légitimité apparaissent des formes nouvelles de légitimité. Et c'est celle-là qu'il faut considérer, parce que légitimité d'établissement, il n'y a pas de place pour la légitimité des institutions internationales dans ce cadre-là, parce qu'elles ne sont jamais établies par le suffrage universel. Ou alors, elles pourraient bénéficier d'une légitimité que l'on pourrait appeler dérivée, ou une légitimité secondaire. Il faudrait sur ce point faire une histoire complète qui existe de tous les débats qu'il y a eu sur les votes à plusieurs degrés. Car dans l'histoire électorale, même des sociétés démocratiques, le vote a souvent été un vote à plusieurs degrés. Donc la légitimité a toujours été une légitimité qui était en quelque sorte dérivée à partir de ces différents degrés. Donc pas de légitimité d'établissement dans les organisations internationales et pas de possibilité de légitimité d'identification, car il n'y a ni classe sociale des fonctionnaires, souvenir de Hegel, ni forme d'organisation rationnelle qui permette de fonder cette identification à la généralité. En revanche, aujourd'hui, nous voyons se développer trois nouvelles formes de pouvoir. Et sont liées à chacune d'entre elles de nouveaux types de légitimation. Premièrement, le développement d'autorités indépendantes. Il faut prendre en compte le fait sur ce point que si l'on considère l'organisation des pouvoirs publics entre la fin du XVIIIe siècle et les années 1970, en termes de vocabulaire des institutions, en termes de répertoire des concepts, il y a moins de changements que ceux que nous connaissons depuis une vingtaine d'années avec l'émergence d'un certain nombre d'institutions nouvelles que je vais décrire très rapidement. Ces autorités indépendantes, elles sont d'abord nées du constat qu'il fallait soustraire à la politique un certain nombre de régulations ou un certain nombre d'arbitrages. Et c'est aux États-Unis même qu'est née la première de ces formes-là, à la fin des années 1880, 1887, l'Interstate Commerce Commission, qui avait pour but de réguler les problèmes de circulation et de tarification des chemins de fer. L'idée là est que la généralité n'est plus définie sur le mode d'une identification, mais sur le mode d'une distanciation. C'est la distanciation à la particularité qui qualifie la généralité. Une autorité indépendante remplit une fonction de généralité sociale car elle est à égale distance de toutes les particularités. Être à égale distance de toutes les particularités, il y a différents moyens de le réaliser. D'ailleurs, aux États-Unis, on a d'abord pensé que c'était à travers l'institution d'exécutifs bipartisans, où on mettait, personne ne pouvait être majoritaire. On mettait les différents partis en place. Et un certain nombre d'institutions ont fonctionné de cette façon-là. Ça peut être sur un mode plus judiciaire, d'extériorité plus complète. Mais ces autorités ont bénéficié, dans tous les pays, du soutien des populations. Il est même tout à fait remarquable de voir que la plupart des pays récemment venus à la démocratie ont tous adopté et multiplié ce type d'autorité depuis une vingtaine d'années. La littérature sur ce plan-là est très importante. Le deuxième type de transformation institutionnelle concerne les cours constitutionnelles. Les cours constitutionnelles, avec les autorités indépendantes, ont été participer de ce deuxième changement massif. Pour revenir d'un mot sur les autorités indépendantes, ce qui les caractérise, c'est de considérer que leur qualité de généralité ne peut jamais être un statut, et que c'est donc toujours une qualité qui doit être mise à l'épreuve. Alors que dans le cadre, je dirais, de la légitimité d'identification, on présupposait qu'il y avait la possibilité d'établir un statut de généralité. Alors que là, la généralité ne peut plus être éprouvée que sous la forme d'un travail et d'une qualité. Les cours constitutionnelles, elles ont eu une triple fonction. Elles ont une triple fonction qu'on a appelée classiquement dans la théorie politique depuis une trentaine d'années contre-majoritaire, de permettre de développer les temporalités, de ne plus simplement se préoccuper du moment immédiat de la décision, mais de l'inscrire dans une temporalité plus longue. C'est le sens même, je dirais, de la déclaration, d'un élément central de la Déclaration des droits de l'homme, qu'il dit qu'il est décisif de garder les droits, et non pas simplement de faire vivre les droits. C'est une chose que l'on voit dans la Déclaration de 1789. Un deuxième élément central dans les cours constitutionnels, c'est non pas simplement de partir de la décision démocratique, mais de l'organisation de la volonté démocratique. Or, il y a une très grande différence entre une décision et une volonté. C'est qu'une volonté est une construction du temps, alors qu'une décision est à un moment dans le temps, est une façon de trancher le temps. Donc, la volonté générale doit, par construction, être toujours une construction historique et n'est pas du même ordre que la décision. Or, il y a très souvent eu dans les démocraties confusion entre cet ordre de la volonté et l'ordre de la décision. Troisième fonction de ces cours constitutionnels, une fonction, disons tout simplement, de réflexivité, c'est de développer les conditions d'une démocratie plus indirecte qui multiplie les occasions de revenir dans un débat selon des modalités différentes. Et c'est ce que fait effectivement, je dirais par définition, un débat dans une cour constitutionnelle, c'est qu'elle revient dans un débat social ou politique, mais avec des principes d'argumentation, des conditions de réflexion qui sont différentes. Donc c'est une démultiplication des conditions et des modalités de la discussion. Enfin, un troisième élément est apparaît de plus en plus central dans nos démocraties contemporaines, c'est le retour de la question du gouvernement. Toutes les démocraties contemporaines ont été définies comme des régimes, mais pas comme des gouvernements. La question du gouvernement était au contraire la façon traditionnelle de considérer la politique au Moyen-Âge. On l'appelait ça d'ailleurs le régimen, mais enfin c'est gouvernement qu'il faut comprendre. À ce moment-là, ce qui était donc très important, ce n'est pas l'organisation des pouvoirs publics, mais les vertus et les qualités du gouvernant. Et si l'on regarde ces qualités des gouvernants qui étaient en cause, c'était des qualités de probité, des qualités de justice, des qualités d'ordre, des qualités de bienveillance et bien d'autres. Ce que nous voyons aujourd'hui dans les sociétés contemporaines, c'est le retour de la question du gouvernement et que les démocraties ne peuvent plus simplement être définies comme des régimes, mais doivent de plus en plus être définies comme des gouvernements. Et cela, les citoyens le demandent à travers un certain nombre de qualités, que ces qualités soient celles de l'impartialité, que ces qualités soient celles de la proximité, que ces qualités soient celles de la présence, de l'attention à la singularité. Tout un ensemble de demandes citoyennes ne définissent plus simplement des formes d'institutions nouvelles, mais des qualités du gouvernement. Ce qui entraîne ces trois mouvements d'autorité indépendante, de cour constitutionnelle et le retour de la question du gouvernement, des définitions différentes, bien sûr, des problèmes de la représentation. On voit renaître à travers les autorités indépendantes, par exemple, des conceptions que Carré de Malberg aurait appelées organiques de la représentation. On voit aussi une chose fondamentale, c'est que ces formes d'autorité, ces cours constitutionnelles, nécessitent de ne pas être élu. C'est-à-dire que non seulement le fait de ne pas être élu n'est pas un inconvénient, mais c'est une qualité essentielle. La qualité de ne pas être élu, c'est celle-là et celle-là seule, en effet, qui permet de ne jamais risquer d'être lié à un processus comme celui d'un affrontement partisan. Et l'on peut même, si l'on refait l'histoire, des institutions qui ont été les premiers précurseurs de ces institutions indépendantes, comme des formes de censorat en France ou aux États-Unis, dans une constitution comme celle du Vermont ou encore de Pennsylvanie, eh bien, ce qui a empêché ces institutions de fonctionner, c'est justement leur caractère électif. Car du coup, elles ont reproduit à l'intérieur d'elles-mêmes les conditions de l'affrontement partisan qu'elles se proposaient de dépasser. Donc, ne pas être élu est une qualité et non pas un défaut. Et c'est une qualité d'autant plus grande que le fait de ne pas être élu est une faiblesse et que cette faiblesse demande en permanence, d'une certaine façon, à être compensée par des éléments de qualité de l'action. La sociologie politique a classiquement opposé l'input legitimacy à l'output legitimacy. Mais je crois que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus important que simplement une question d'output. Si l'on met la question de la qualité démocratique au centre du constat de ce qui fonde la légitimité pour ces conditions du gouvernement et ces différentes institutions, eh bien, à ce moment-là, on se rend compte que l'opposition entre un principe de majorité et un principe de justification, l'opposition ou la complémentarité, peut fonctionner positivement dans les démocraties. C'est qu'effectivement, les démocraties deviennent de plus en plus duales, avec d'un côté l'organisation de ce principe de majorité qui est toujours le principe pivot, qui est le principe qui a le pouvoir du dernier mot, pour employer la langue classique sur ce plan-là, et de l'autre côté, il y a ce pouvoir secondaire, mais en même temps ce pouvoir d'équilibre fondamental qui est celui d'une justification selon d'autres modalités. Si l'on considère ces différents critères, on voit bien comment on pourrait tenter de les appliquer aux organisations internationales. Et je ne donnerai qu'un certain nombre d'idées rapides sur le sujet, préférant laisser la parole à ceux qui expérimentent ces idées-là. Donc, bien sûr, il n'y a pas de possibilité, sauf de très rares cas, de donner à ces institutions un caractère de légitimité d'établissement, sauf à considérer une légitimité d'établissement dérivée, ce qui est le cas dans les organisations internationales, composées par des représentants élus eux-mêmes d'institutions. Mais ce qui ne serait pas le cas dans un certain nombre d'autres organisations, et ce qui serait un cas mixte dans le cadre d'un certain nombre de cours de justice où se mêlent des éléments parfois d'élection et parfois d'autres éléments. Mais c'est donc un type de légitimité plus fonctionnel qui doit se mettre en place. Un type de légitimité fonctionnelle qui est lié à la qualité de généralité produite par ces institutions. Et cette qualité de généralité, qui est d'impartialité, selon une de ces modalités, qui est centrale quand il s'agit d'arbitrer, quand il s'agit de juger, Pascal Ami nous parlera peut-être de l'organisation de règlement des différends, bien sûr, à l'intérieur de l'OMC, sont là les fondements de ce qui peut être considéré comme la légitimité pleinement démocratique de ces institutions. Elles sont des institutions de la généralité. Mais être une institution de la généralité présuppose aussi de prendre une dimension démocratique par les conditions de la publicité, les formes de la justification publique. Et c'est peut-être sur ce plan-là que les organisations internationales, me semble-t-il, souffrent le plus d'être taxées d'illégitimes. C'est que justement les conditions de leur communication, les conditions de la publicité, les conditions de leur justification ne trouvent jamais des formes de publicité équivalentes à celles qui peuvent exister dans des États nationaux. De la même façon, la responsabilité ne se définit pas simplement par des mécanismes juridiques, mais la responsabilité définit aussi l'acceptation d'une vulnérabilité. Et on peut même dire que dans l'histoire politique de la responsabilité a toujours lié l'exercice d'un pouvoir avec la reconnaissance publique de la fragilité de ce pouvoir et l'acceptation de la mise en danger, en quelque sorte, de ce pouvoir. Et la mise en danger de soi, qui s'appelait le gouvernement de cabinet dans l'Angleterre du début du XVIIIe siècle, doit prendre probablement d'autres noms dans les organisations internationales. Ces dimensions de la publicité posent une question centrale. C'est qu'un certain nombre de ces institutions sont au carrefour de la diplomatie et de la régulation. Or, le propre de la diplomatie, c'est justement d'être le lieu d'où est absent la publicité, ou en tout cas la publicité est plus limitée. Et il y a toute une réflexion, d'ailleurs, dès la Révolution française et tout au long du XIXe siècle, sur ces rapports entre publicité, enfin démocratie et diplomatie. La démocratie, ça n'est pas simplement le règne du nombre, mais c'est le règne de la transparence, alors que la diplomatie, c'est le règne du petit nombre d'abord, mais c'est surtout le règne de du secret. Et donc il y a, me semble-t-il, deux questions fondamentales qui sont posées aux organisations internationales, étant bien posées, premièrement, que ça n'est pas la quête d'une légitimité d'établissement qui peut renforcer leur reconnaissance sociale, mais qui est une légitimité de type plus fonctionnel, correspondant aux différentes qualités de gouvernement et aux différentes formes d'institutions dont j'ai très brièvement parlé. et que ce qui fait probablement le plus défaut aux organisations internationales aujourd'hui, c'est d'exister dans un espace où elles, dans un espace public où elles peuvent être amenées à se justifier, à argumenter publiquement. Car la démocratie, c'est tout de même cela, ça n'est pas simplement un ensemble de procédures, c'est la constitution d'un espace dans lequel ces procédures produisent des effets visibles pour toute une communauté ou toute une population. Et qu'il y a là, peut-être, me semble-t-il, le problème le plus préoccupant concernant les organisations internationales. Voilà, je m'arrête là, car il est temps que je laisse la parole à celui qui va apporter des éléments de réponse, Pascal Lamy.